Bienvenue à cette émission de conférences pectorales. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Marc Brochu enseignera sur la troisième pierre du pectoral, l'émeraude, qu'il a intitulée « La pierre du Lévite ».
Les croyants d'aujourd'hui, de toute nation maintenant, parce que ça c'était ce que je vous rapporte au sujet de l'histoire de l'Ancien Testament, les Lévites à l'époque de Moïse, ensuite quelques centaines d'années à l'époque de David, mais c'était toujours au milieu du peuple d'Israël, avec Israël, avec la nation juive. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. Toutes les nations sont appelées au salut, à se réconcilier avec Dieu et à le servir, à l'aimer, à être utile à son royaume et à son œuvre. Donc, de toutes les nations, et le Seigneur a dit qu'il ferait de tous ses croyants, comme on a déjà vu, un royaume de sacrificateurs également. Mais pas tout à fait comme c'était avec les animaux et toutes ces choses de l'Ancien Testament, comme on a déjà parlé. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, aurait dû exciter des Juifs à la jalousie, puisque dans son introduction, lorsqu'on regarde première épître de Pierre, la façon qu'il s'est exprimé et à qui il s'adresse, donc au premier chapitre, premier verset, l'apôtre, il se dit apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, il s'adresse à des étrangers. Là, c'est plus carrément seulement les Juifs, là. Et puis, dans le chapitre 2, il va loin en expliquant que ces gens, ces étrangers, ces nouveaux venus dans cet appel, dans ce plan de Dieu, comment il va les décrire. Chapitre 2, versets 9 et 10. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Donc, ce que Israël était supposé être, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc, eux, ils n'étaient pas comme les Israélites avant, dans les alliances et tout ça, mais là, ils ont été appelés en Jésus-Christ, c'est maintenant un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vu vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Merveilleux, n'est-ce pas? Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Merveilleux. Gloire au Seigneur. Alors, toutefois, cette lettre aurait pu aussi être pour des Juifs, mais en tout cas, ce royaume des sacrificateurs et sacerdoces dont Jean et Pierre parlent, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel des croyants. Une expression qui a été forgée dans l'histoire par Martin Luther, si vous ne l'aviez pas déjà entendu, le sacerdoce universel des croyants au 16e siècle, alors qu'il confrontait comme un prophète audacieux, porte-parole de Dieu, la conception sacerdotale catholique romaine à ce moment-là du ministère qui était erronée en fait, où il y avait entre autres la séparation marquante et fulgurante entre clergé et laïc. Voyons les parallèles avec la vie chrétienne maintenant. Le tabernacle était au centre du campement des nombreuses tentes du peuple d'Israël. Dans son pèlerinage, cela était afin de montrer l'importance. Avec lui et son fonctionnement, tous pouvaient savoir comment plaire à Dieu. La description du culte lévitique semble suggérer une progression. D'abord expiation, ensuite consécration, et finalement, communion. Je répète, expiation, consécration, communion. Nous y trouvons les mêmes étapes que celles dans la vie chrétienne, en fait. Mais une question peut se poser, est-ce que les Lévites avaient des fonctions de moindre importance que les sacrificateurs? Peut-être, mais on peut voir, par exemple, dans 2 Chroniques 29, 34, mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini, jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Et il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses, des sacrifices d'action de grâce, avec la libation des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Donc on voit ici un rapport intéressant. Les Lévites sont intervenus. Il y avait eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Alors, ainsi, il ne doit pas y avoir de jalousie entre les participants, les différents services. Encore une leçon à ce propos qui se continue dans le Nouveau Testament. Il y a des exemples de choses qui ont été écrites pour nous enseigner dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Maintenant, c'est la vie de l'Église et c'est en application. Et Pierre, un des anciens de l'Église, une colonne auprès du Seigneur, il va dire dans sa première épître, chapitre 5, versets 1 à 5, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors, plutôt, c'est cette conscience qu'on doit avoir de cette solidarité inhérente, on peut dire, au corps de Christ. Lorsqu'on regarde, par exemple, vous pourrez regarder par vous-même dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans tout ce chapitre, il y a cette interdépendance des uns envers les autres, qui sont décrits comme différents membres d'un seul corps, dont Christ est la tête, et l'un ne peut pas agir sans vraiment l'autre et sans fonctionner ensemble et avec cette interdépendance, cette solidarité. C'est important. Il y a un beau passage dans l'Ancien Testament, plusieurs, mais dans les psaumes. C'est le psaume 133. « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Certainement des sœurs aussi. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia. Alors, les chapitres 12 à 14 de 1 Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, lorsque vous les regardez, on voit toute la description du fonctionnement du corps. On a parlé de solidarité, on peut parler d'amour, charité, humilité, de travailler ensemble, et ça demande certains efforts, hein, parfois, avec des individus, parfois plus que d'autres. Jésus disait d'aimer les uns et les autres, et les uns et les autres, c'est répété. C'est un travail et une exigence de son royaume. Et donc, dans ces chapitres 12, 13, 14, bien, on voit les dons, la solidarité, chapitre 12, les dons vraiment spirituels, bien décrits, bien comment les mettre en pratique, les opérer. Chapitre 13, l'amour, hein, la charité, très important, une emphase là-dessus. Chapitre 14, encore, les dons spirituels. Et lorsqu'on regarde le vêtement du souverain sacrificateur, la bordure de la tunique bleue avait... À son bas, Dieu avait dit, tu vas mettre des clochettes et des fruits, des grenades. Une clochette, une grenade, une clochette, une grenade. Et ça faisait donc le tour de la robe. Et ça ressemble à ces chapitres. Les clochettes, c'est comme les dons spirituels. Chapitre 12, dons spirituels. Ensuite, c'est le fruit, c'est l'amour. Hein? Ensuite, c'est chapitre 14, dons spirituels. Et donc, ça va comme ça. Ça doit être comme ça. Une cloche, don spirituel. Un fruit, chapitre 13, l'amour. Une autre cloche, chapitre 14, les dons spirituels. Alors, vous voyez un peu ce que j'essaie de vous montrer, là. C'est intéressant de voir cela. dans cette pensée d'équilibre, de bons sentiments réciproques, de modestie dans nos rapports les uns avec les autres dans le corps de Christ, l'apôtre s'exprimait aux Romains par la grâce qui m'a été donnée dans le chapitre 12, versets 3 et 6 à 6. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes dans la mesure de foi que Dieu a départi à chacun, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Alors voyons maintenant l'appel des Lévites. Il y a beaucoup d'appelés, Jésus a dit à un moment donné, mais peu d'élus. Le soin et le transport du précieux tabernacle, la préparation de ce qu'exigeait le service sacré, ne pouvait être confié à un seul individu ou à une seule famille. De nombreuses personnes devaient remplir ces charges honorifiques. Qui devait revêtir ses vêtements et faire ces choses? Quand les premiers-nés des Égyptiens furent frappés, il a fallu que le sang soit mis sur le linteau et les deux montants de la porte de chaque maison pour protéger les premiers-nés des Israélites. Alors, ils sont devenus, comme ça, propriété de l'Éternel et lui ont été consacrés. On lit ça dans Exode 13, versets 11 à 16. Mais au lieu d'affecter au service sanctuaire les premiers-nés de toutes les tribus, finalement, c'est les Lévites qui ont pris leur place, qui ont pris cette place-là. Pourquoi ces Lévites? Pourquoi cette tribu en particulier? Très bonne question. Merci de la poser. Parce que seuls, ils étaient revenus, ces Lévites, cette tribu-là en particulier, de leur propre gré à l'Éternel. Ils avaient prouvé leur zèle pour lui lorsque le peuple s'était parjuré, s'était confondu en péchant avec l'idolâtrie, en adorant le veau d'or. Vous vous rappelez peut-être ce passage dans l'Ancien Testament, cette portion d'histoire d'Israël. C'est dans Exode au chapitre 32, versets 26 à 29. Et finalement, Dieu va dire dans Nombre 18, 6, au sujet des Lévites, à tout le peuple d'Israël, il va leur dire, « Ils vous sont remis en don. » Et ça fait penser à un passage du Nouveau Testament. C'est dans Éphésiens chapitre 4 où l'apôtre dit que le Seigneur a fait plusieurs dons. On parle des ministères dons ici qui sont majeurs. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Et il y en a qui ont souvent comparé aux cinq doigts de la main. Hein? L'apôtre, le pouce qui soutient tous les autres, qui établit la base, le fondement. Et puis ensuite, le prophète, c'est le doigt qui pointe, qui dit les grandes vérités. Des fois, on n'aime pas toujours entendre le majeur, l'évangéliste qui va chercher les âmes, qui va sortir, qui va aller vers les nations, le doigt le plus long. Hein? C'est lui qui va chercher, qui court après les âmes, l'évangéliste. Il veut tous les sauver. On en connaît comme ça des évangélistes. La nuance, ce doigt qui porte l'alliance, c'est le doigt du cœur, le doigt qui le pasteur qui aime son peuple, ses brebis, qui doit les paître avec passion, avec amour et dévotion. Et finalement, le plus petit, mais non le moindre, le petit doigt, l'auriculaire, il va dans l'oreille justement parce qu'il est plus petit, plus facile d'aller dans ces canaux un peu réduits, un peu étroits, et ça lui permet d'aller où les autres ne vont pas.
Bien, chers auditeurs, c'est déjà la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À cette occasion, le pasteur Jean-Marc Brochu enseignera sur la suite sur l'émeraude du pectoral. Pour info, vous pouvez consulter notre site Internet à cette adresse www.conférencepectorale.org. Vous pouvez également voir notre local d'exposition de nos maquettes de l'histoire d'Israël à l'adresse arcexposition.wordpress.com. Et vous pouvez joindre Jean-Marc à l'adresse courriel pectoralia@gmail.com.